Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble ce soir jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et puis à 19h15 le Club des idées, édition spéciale ce soir. Que faut-il attendre de l'allocution du président Macron? Ouverture des petits commerces, fête de fin d'année, fin ou non de la limite du kilomètre? On en parle jusqu'à 20h avec nos invités, le patron de la Fédération des commerçants, le numéro 2 de la CPME, le professeur Gaudry et plein d'autres. Et on se retrouvera juste après l'allocution du chef de l'État pour une émission spéciale et le grand débrief. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec les dernières infos, Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ah, rugbystiquement, c'est une légende, oui, cette demi-finale de 99 contre les All Blacks, où il a ébloui la planète.
Le rugby français perd une légende, un mythe. Christophe Dominici avait 48 ans, grande figure du 15 de France. Son petit gabarit ne l'empêchait pas de défier les plus grands.
Quel cap pour Noël? Quels allègements pour le confinement? On sera fixé d'ici une heure avec l'intervention donc d'Emmanuel Macron.
Dans la course au vaccin, l'Union européenne signe un contrat avec le laboratoire Moderna.
L'Assemblée nationale vient d'adopter à une large majorité la proposition de loi sur la sécurité globale, alors qu'une polémique monte après l'intervention policière musclée hier soir à Paris pour déloger des migrants.
Le PSG et Rennes jouent ce soir leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens face à Leipzig à 21h et Rennes actuellement contre Chelsea depuis quelques minutes, toujours 0-0.
Un coup d'œil au temps avec la tendance météo. Anissa nous a rejoint. Un peu plus de douceur demain, ma chère Anissa.
Les températures vont se radoucir dans l'après-midi, en particulier à l'est de la France où il a fait bien frais ces derniers jours. Demain matin, nous aurons toujours des gelées, attention, et puis dans le ciel, après les nuages matinaux, le soleil arrive, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
D'abord donc le choc pour les amateurs de rugby qui ont appris cet après-midi la disparition de l'ancien ailier et légende du 15 de France, Christophe Dominici.
Il avait 48 ans, Domi, un génie qui du haut de ses 1m72 et 82 kilos était capable de contredire les logiques physiques et de renverser des montagnes.
Oui, ses exploits, il les a accomplis sous le maillot du 15 de France qu'il a porté à 67 reprises, mais aussi avec le maillot de Toulon dont il était originaire et surtout du Stade français dont il est indissociable des années Max Guasini. 5 titres de champion de France à la clé.
Serge Simon était l'un de ses coéquipiers justement au Stade français, l'un de ses amis aussi.
Moi j'ai envie de garder un sourire. C'était un garçon, oui, c'était un garçon très, très sensible, très, très fragile et qui certainement, comme beaucoup d'entre nous, masquait sa fragilité par une certaine exubérance. Voilà, oui, il y avait une fragilité chez Domi. Ah, rugbystiquement, c'est une légende, oui. Quand on l'a vu arriver au Stade français, c'était compliqué, mais on a vu de suite qu'il avait un talent extraordinaire, d'avoir une pointe de vitesse, un sens du rugby, une vision du jeu, un crochet incroyable. Et c'était le début d'une histoire extraordinaire pour lui, qui l'a mené à cette demi-finale de 99 contre les All Blacks, où il a ébloui la planète.
Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, ancien coéquipier de Christophe Dominici, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Le corps de Christophe Dominici a été retrouvé cet après-midi dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Un témoin dit l'avoir vu chuter d'une dizaine de mètres depuis le toit d'un bâtiment désaffecté. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour rechercher les causes de sa mort.
Et un peu moins d'une heure maintenant avant l'intervention d'Emmanuel Macron, la sixième depuis le 12 mars, c'est le début de la crise sanitaire.
Intervention que nous suivrons bien sûr en direct sur Europe 1. Le chef de l'État devrait annoncer des ajustements, mais pas de levée du confinement. Ce devrait être une valse en trois temps.
Avec d'abord la réouverture des commerces, sans doute dès samedi, puis avant Noël, si tout va bien, des facilités de déplacement. Et enfin, pas avant janvier, la réouverture des bars et des restaurants.
C'est aujourd'hui que débute la 36e campagne d'hiver des Restos du Cœur, en pleine crise sanitaire et économique. L'appel lancé par Coluche est plus que jamais d'actualité.
La plupart des nouveaux bénéficiaires sont des victimes directes des conséquences du Covid, comme vous l'avez constaté, Stéphane Place, dans un centre des Restos du Cœur près de Bordeaux.
Oui, et déjà une augmentation de plus de 7% du nombre de repas servis depuis le début de la crise sanitaire en Gironde. Clairement, les Restos du Cœur s'attendent à un hiver difficile. 1500 bénévoles mobilisés pour accueillir les familles monoparentales, les personnes isolées, 40% des demandes, mais aussi de nouveaux bénéficiaires, des auto-entrepreneurs, des intérimaires par exemple. Et puis Muriel Kilikini, la présidente départementale des Restos, le voit déjà, les jeunes qui basculent dans la pauvreté.
C'est les étudiants qui ont perdu leur petit job. Voilà un jeune qui a dit « mais là, il me faut quelque chose ». maintenant. C'est ces situations-là qui sont vraiment très, très déstabilisantes. On a pris un petit peu exemple sur ce qui s'était passé en 2008, hein, où il y a eu une augmentation de plus de 20%. On peut craindre ça.
Pour la première fois, ce matin, Eric, frappé de plein fouet par la crise, a poussé la porte des Restos du Cœur, ici à Bruges.
Ça ne m'était pas arrivé. C'est une situation assez difficile à vivre. Moi, je suis cuisinier dans la restauration. Je suis au chômage total. On a une famille avec deux enfants. Un reconfinement une deuxième fois. Là, on attend une réponse pour la réouverture des restaurants. On attend avec impatience ce que va dire le président ce soir.
Un afflux de bénéficiaires plus important et dans les 42 Restos du Cœur que compte la Gironde, tout un protocole sanitaire, gel hydroalcoolique, masque, pour aider les plus démunis dans ce contexte complètement inédit.
Le reportage de Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, et c'est donc à tous ces Français qu'Emmanuel Macron va de nouveau s'adresser ce soir, ceux qui souffrent, hein, certains plus que d'autres, on vient de l'entendre, des conséquences du confinement.
Oui, restez avec nous, édition spéciale donc jusqu'à 20h. On suit ensemble l'allocution du chef de l'État et puis on débriefe avec nos invités jusqu'à 20h50.
Et alors que le monde entier attend de pouvoir enfin lancer des campagnes de vaccination, l'Union européenne annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec le laboratoire américain Moderna, l'un des plus avancés dans la conception justement d'un vaccin contre le Covid.
Oui, contrat qui porte sur 160 millions de doses. On vous retrouve en direct de Bruxelles, Isabelle Horry. Une partie de ces vaccins est destinée à la France.
Et oui, car l'Union européenne négocie au nom de tous ses membres. Soyons clairs, hein, quand la France précommande un vaccin, ça se fait dans le cadre des contrats conclus entre les labos et Bruxelles. Alors pourquoi passer par l'Europe ? Eh bien parce que ça évite une concurrence entre pays voisins et aussi parce que un marché unique de 450 millions de personnes, c'est plus important que 27 marchés séparés. Ensemble, les Européens ont une position de force. Les prix des vaccins sont secrets, mais selon l'agence Reuters, les négociateurs européens auraient, par exemple, obtenu un meilleur tarif que les États-Unis pour le vaccin Pfizer. À ce jour, presque 2 milliards de doses au total ont été précommandées par l'Europe. Écoutez la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Une fois que le vaccin se sera avéré sûr et efficace, chaque État membre le recevra au même moment, au prorata de sa population et aux mêmes conditions. Nous sommes en train de mettre en place l'un des portefeuilles de vaccins les plus complets au monde.
Car Bruxelles a déjà conclu 6 contrats, Moderna est le dernier en date, mais c'est déjà fait avec Pfizer, AstraZeneca ou Sanofi. Au prorata de sa population, la France peut réclamer 15% des doses préachetées. Ça fait potentiellement 300 millions de doses.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à l'IGPN, la police des polices, de remettre ses conclusions sous 48 heures concernant les violences observées hier soir lors de l'évacuation par les forces de l'ordre d'un campement de migrants, place de la République à Paris.
MSF annonce qu'il va porter plainte pour mise en danger d'autrui. Beaucoup à gauche dénoncent une dérive liberticide parmi les scènes qui ont choqué, notamment ce policier qui fait un croche-pied à un migrant. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulé cet après-midi à l'Assemblée nationale le vote de la proposition de loi sur la sécurité globale, qui a fait, on le sait, couler beaucoup d'encre hein, ces derniers jours, pour finalement être adoptée très largement, Adrien Beck.
Oui, pas de surprise, même si une partie de la majorité a voté contre ou s'est abstenue, 40 députés marcheurs, 23 au Modem, on est loin des records, une loi pour l'heure imparfaite pour le député Sacha Houlier qui s'est abstenu.
Sur le continuum de sécurité, ce texte avait de bonnes mesures. Sur le volet vidéo ou sur la deuxième partie de ce texte, il y avait des dispositions qui étaient critiquables, contestables. Sur le port d'armes dans l'établissement recevant du public, les crédits de réduction de peine et naturellement une rédaction que nous sommes certains à contester sur l'article 24, mais qui doit maintenant faire l'objet de la navette parlementaire.
En clair, la majorité compte s'appuyer sur le Sénat pour réécrire les articles litigieux. Il y aura aussi saisine du Conseil constitutionnel sur l'article 24, celui qui interdit de filmer des policiers. Jean Castex l'a annoncé cet après-midi. Aussi bien, on sera censuré et donc débarrassé, dit un cadre macroniste qui a pourtant voté pour. Preuve que ce résultat masque mal les fractures qui se sont réactivées dans la majorité avec ce texte. Une majorité gênée, notamment par les déclarations de Gérald Darmanin et qui espère que la suite du parcours de cette loi ne tournera pas au feuilleton.
Adrien Beck à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, vous restez avec nous à suivre dans votre journal. C'est parti pour Rennes face à Chelsea en Ligue des Champions et pour l'instant toujours aucun but.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 19h10 avec Isabelle Millet. Et on suit donc ce soir en direct sur Europe 1, le foot et la Ligue des Champions.
Et on sera dans quelques minutes au Rosen Park avec Simon Rubin qui suit le match entre Rennes et Chelsea qui vient de débuter, enfin 15 minutes de jeu déjà. Pour l'instant, toujours 0-0. Grande soirée foot sur Europe 1 à 21h. On le rappelle, c'est le PSG qui sera sur le terrain face à Leipzig.
À l'étranger, on part aux États-Unis maintenant où les choses, ça y est, enfin commencent à se mettre en place.
Oui, tandis que Joe Biden nomme son équipe, Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas la victoire de son adversaire, demande quand même à l'administration des services généraux de lancer officiellement la transition.
Cette visite à présent qui fait couler beaucoup d'encre, celle du premier ministre israélien en Arabie Saoudite.
Benjamin Netanyahou a rencontré le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman, et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est historique et c'est loin d'être anecdotique.
Ah bah c'est même un véritable renversement stratégique de la part de l'Arabie Saoudite, ou en tout cas de la part de son prince héritier, le bouillonnant Mohamed Ben Salman, plus connu sous ses initiales MBS, capable du meilleur, comme par exemple accorder aux femmes une ébauche de droit de vote ou l'autorisation de conduire une voiture sans être obligatoirement accompagné d'un homme, mais également capable du pire, comme ordonner aux sbires de ses services secrets d'assassiner un opposant, Jamal Khashoggi, dans les locaux de son consulat en Turquie, puis de le faire découper en morceaux et jeter dans un puits. Alors, le rêve, en fait, de MBS, c'est de transformer son royaume en une puissance régionale capable de faire pièce à l'Iran, qui est à la fois son voisin et son ennemi juré. Et pour cela, il est prêt à payer n'importe quel prix, et nouer dans ce cadre-là une alliance de revers avec Israël est une option tout à fait pragmatique et parfaitement acceptable par le jeune prince, d'autant qu'au-delà de l'apport militaire qui sera loin d'être négligeable, l'État hébreu pourrait devenir à terme un partenaire économique et technologique de tout premier ordre pour moderniser le royaume.
Mais MBS, Didier, n'est pas encore totalement aux manettes.
Et voilà, et c'est ce qui explique la communication un peu embarrassée du palais, qui a nié la rencontre lorsqu'elle a été rendue publique hier par la presse israélienne, parce que nominalement, c'était évidemment le roi Salman, le père de MBS, qui reste le monarque régnant, gardien des lieux saints, et il ne veut pas entrer dans l'histoire comme le roi qui aura vendu Jérusalem et trahi le plan de paix arabe élaboré par les Saoudiens et qui conditionne normalement la reconnaissance d'Israël à la création d'un État palestinien. MBS, lui, ce qui l'inquiète, c'est le départ de Donald Trump, son plus fervent soutien, et l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, qui s'est toujours déclaré horrifié par l'assassinat de Jamal Khashoggi. Et donc, un rapprochement acté avec Israël avant l'intronisation du nouveau président, pour MBS, c'est une question de survie politique, car il espère ainsi d'abord s'attirer les bonnes grâces du Congrès américain, mais surtout cimenter définitivement cette alliance anti-iranienne qu'avait voulu Donald Trump, avec à ce stade aux côtés d'Israël et de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Soudan.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et maintenant, Julien, comme promis, le foot, direction le Rosen Park, Rennes, Chelsea, quatrième journée de Ligue des Champions. On vous retrouve en direct, Simon Rubin. Les Bretons qui sont dans l'obligation d'obtenir un bon résultat face aux Blues pour espérer poursuivre leur aventure européenne. Ça donne quoi, Simon? Le match a débuté il y a quoi, 17 minutes environ?
Exactement, 17 minutes et 30 secondes très précisément, 0-0 pour le moment entre Rennes et Chelsea. Sont peu ou prou les mêmes équipes qui se font face que lors du match aller. On rappelle que Chelsea à l'aller avait gagné 3-0 face à cette équipe rennaise, qui est en train petit à petit de s'installer dans ce match, qui est en train d'oser davantage. Il y a eu une grosse occasion pour Chelsea en tout début de rencontre, Timo Werner, le buteur allemand, seul face au but, qui a manqué le cadre avec sa frappe qui est passée au-dessus. Et puis il y a quelques instants, Rennes qui a un petit peu répondu avec, à la suite d'un corner, un ballon fuyant qui a traversé dans la largeur toute la surface de réparation sans que personne puisse finalement le toucher. On en reste pour l'instant à 0-0 et vous avez raison, Rennes doit gagner, d'autant que ce soir, en ce moment même, Séville mène au score de son côté. Séville qui est un autre rival du Stade Rennais dans ce groupe de Ligue des Champions. Et là maintenant, les Rennais sont vraiment dans l'obligation de gagner, au moins faire un petit match nul, mais ça serait quand même très compliqué. Pour l'instant, 0-0 et les Rennais, petit à petit, essaient de s'installer et de se porter à la hauteur de l'événement. Mais ce ne sera pas simple. 0-0, 18e minute de jeu.
Allez, tous derrière le Stade Rennais. Merci Simon Rubin en direct. Et à 21h, on sera tous derrière le PSG qui joue contre Leipzig. 21h, direct et intégralité jusqu'à 23h30.
Voilà, grande soirée sur Europe. L'allocution du chef de l'État, le débrief sur les annonces. Et puis un peu de détente avec la soirée foot derrière le PSG. Merci Isabelle, à demain. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et le temps qui s'annonce bien couvert demain matin.
Oui, sur le Grand Est surtout, Julien, avec encore en Alsace, en Champagne-Ardenne et sur le Val-de-Saône, des brouillards demain matin qui s'installent toute la journée. Ils seront
tenace, ces nuages bas, donc soyez très prudents. Une perturbation touche la Bretagne. Demain, le ciel est couvert sur le quart nord-ouest, avec de la pluie sur le Finistère principalement, et puis du vent sur les côtes de la Manche. Dans le sud, de l'Auvergne au Languedoc, le ciel est gris au bord de la Méditerranée, avec un temps humide demain. Le vent d'Otan se renforce et les températures sont toujours fraîches le matin avec des gelées dans le nord-est. On aura moins 2 degrés à Belfort, par exemple, 4 à Paris, 10 à Lorient. Dans l'après-midi, le soleil arrive sauf en Bretagne et au bord de la Méditerranée. Et nous aurons des températures plus douces, 6 à Strasbourg, 10 à Nancy, 12 à Paris, Rodez et Brest.
Ah bah c'est pas mal, ça remonte.
14 à Quimper, 15 à Clermont-Ferrand, je continue, je ne m'arrête pas là. 17 à Marseille et jusqu'à 18 à Toulouse pour la
18 à Toulouse. Merci Anissa.
À demain.
Et à demain. Dans un instant, à la suite de notre édition spéciale avec les annonces du président de la République, les petits commerces devraient pouvoir rouvrir sous condition. On en parle dans un instant. Donc, d'abord la carte blanche de ce mardi du Club des Idées avec Alexandre Malafaille.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Vous êtes écrivain, entrepreneur, patron du think tank Sinopia. Et ce soir, vous revenez sur l'intervention du président de la République. Évidemment, un exercice compliqué.
Bah, c'est le huitième du genre, sans compter celle du Premier ministre depuis le confinement. Compliqué parce qu'après sa dernière intervention, qui était quand même quelque peu, on va dire, compliquée en matière de compréhension générale et puis de mesures qui pouvaient sembler pas toujours très cohérentes. Voilà, ce soir, si j'avais un message, il ne peut pas se rater, le président. Il va falloir qu'il trouve quand même, qu'il mette un espèce d'équilibre, un en même temps, qui permet voilà, de réguler voilà, la crise sanitaire et en même temps l'aspect économique.
Parce que cette fois, les attentes sont évidemment très fortes pour les raisons que l'on sait, mais aussi parce que c'est Noël.
Alors, il y a ça, il y a aussi le fait, Julien, que beaucoup de gens sont à cran. Les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, ce chômage quand même qui monte, et puis cette pauvreté, ce tsunami de la pauvreté qui est là. Voilà. Et je crois que les Français, on le ressent bien dans tous les indicateurs, il y a cette espèce d'incertitude, les Français sont perdus. Et alors, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, en lien avec un sondage IFOP qu'on va publier jeudi. Voilà. On se rend compte qu'aujourd'hui, un actif sur deux, un salarié sur deux en France, ne se projette plus. L'avenir professionnel est bouché. Ça, c'est un vrai sujet. Il n'y a plus d'avenir, entre guillemets, parce que la situation a tout figé.
Et c'est le cas notamment pour les commerçants, vous l'évoquiez, Alexandre.
Oui, pour les commerçants, il y a un vrai sujet. Et pour l'enjeu du gouvernement ce soir et du président, ça va être de corriger cette mauvaise décision d'avoir mal confiné comme ils l'ont fait et sans perdre la face. Parce que, évidemment, ils vont se retrouver dans cette difficulté-là. Et je crains qu'en fait, on continue à s'enferrer quand on voit ce qui est annoncé. On dit, tiens, il y a 8 mètres carrés par personne, par magasin, des jauges dans les grands magasins. En fait, si je voulais plaisanter un peu avec le sujet, je dirais qu'on va acquérir un nouveau droit, c'est celui de faire la queue, ça c'est sûr, mais la contrepartie entre guillemets, c'est qu'on va brider l'activité quand même, pour des bonnes raisons peut-être, on va la brider, et il est possible que beaucoup d'activités commerciales se fassent à perte malheureusement sur ce bon mois qui est en général le mois décembre.
Il y a un point assez nouveau, qui est une lueur d'espoir quand même, disons-le clairement, sur lequel est attendu le président de la République, Alexandre, c'est la question des vaccins.
Exactement, mais il ne faudra pas reproduire les erreurs comme on a pu les produire pour les tests avec la précédente stratégie, il va falloir être très clair, donner un calendrier, et puis sinon, si on n'a pas une bonne stratégie, on va se retrouver une fois de plus avec cette saturation qu'on a connue, les files d'attente pour les tests, ça c'est pas satisfaisant. Et puis entre nous, Julien, quand même, ce plan, il aurait pu être préparé pendant l'été, ce qui n'a pas été le cas.
Oui, c'est vrai, alors que les Allemands, eux, sont fin prêts, nous dit-on, à Berlin. Est-ce qu'il faut les rendre obligatoires, tiens d'ailleurs, ces vaccins, Alexandre ?
Alors, en France, c'est quand même un peu compliqué, parce que l'article 16.1 du Code civil dispose quand même qu'on fait normalement un peu ce qu'on veut de son corps et on a droit à son intégrité physique. Et c'est un principe qui a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a des voies de contournement pour l'exécutif qui seront peut-être de s'appuyer finalement sur les autres pays, sur les compagnies aériennes, voilà, qui pourront dire vous ne pouvez rentrer chez moi ou prendre mon avion que si vous êtes vacciné.
Oui.
Donc on voit bien qu'on va vers peut-être un monde où il faudra se faire vacciner de manière un peu obligatoire malgré tout. Et puis je pense qu'on peut compter entre nous sur le lobbying du Big Pharma parce qu'il y a des dizaines de milliards d'euros en jeu.
Oui, et il y a quand même 11 vaccins obligatoires aujourd'hui pour les enfants.
Pour
en
les
France,
enfants,
hein. Rappelons-le, la vaccination c'est aussi obligatoire. Alors pour terminer, Alexandre Malafaille, il va parler d'avenir aussi, le président de la République, d'un cap.
Il faut qu'il parle d'avenir, il faut qu'il remette une perspective et il faut qu'il nous y engage. La question de la méthode, le comment on fait, le fait qu'on essaie de reconstruire ce pays ensemble et pas simplement avec quelques personnes qui sont enfermées dans un château fortifié à l'Élysée, voilà, et qui décident pour nous de notre avenir. Il faut qu'on remette un peu de perspective, un peu d'espoir, accessoirement qu'on nous parle peut-être de la dette.
Réponse dans 40 minutes. On va suivre évidemment cette allocution ensemble sur Europe 1. Merci, Alexandre Malafaille. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, la suite de notre édition spéciale avec le débat du Club des Idées. On est maintenant, je le disais, à moins de 45 minutes de l'allocution du président de la République. On en parle avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
19h22, on poursuit donc notre édition spéciale à quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Dans moins de 40 minutes, le président de la République doit préciser les contours du déconfinement gradué, ouverture des commerces, reprise des activités pour les plus jeunes, lieux de culte, règle du 1 km, beaucoup d'éléments seront précisés ce soir. Et les attentes du monde économique, c'est vrai, sont fortes. Salariés, patrons, commerçants, citoyens, il en va de leur survie pour beaucoup d'entre eux. On en parle donc ce soir avec Francis Palombi, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Confédération des commerçants de France. On en parle avec Stéphane Gaudry, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et on en parle avec Jean Duménil. Bonsoir,
bonsoir.
Secrétaire général de la CPME. Peut-être une première question à vous, Jean Duménil. Avez-vous eu l'assurance que les commerces pourront bien rouvrir, comme on l'entend beaucoup depuis plusieurs jours? Et si oui, à partir de quelle date? On parle du 28 ou du 30 novembre. Est-ce que vous avez des informations?
Oui, ça fait plusieurs jours qu'on travaille avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Donc effectivement, il nous a été confirmé, sous réserve de ce qu'allait dire finalement le président de la République, puisque oui, c'est lui le juge-arbitre final, que les commerces allaient réouvrir. Et nous avons plaidé très très fortement pour que cette réouverture intervienne le 27 et au plus tard le 28, pour une raison très simple, c'est que c'est un week-end en période de Noël et les commerçants ont besoin d'avoir un week-end de plus. Certains d'entre eux réalisent un pourcentage non négligeable de leur chiffre d'affaires dans cette période. Juste pour mémoire, les marchands de jouets dans la période de Noël, oui, c'est à peu près 60% du chiffre d'affaires annuel.
Est-ce qu'il a été perdu va pouvoir être rattrapé pendant le laps de temps qui nous sépare de Noël?
Alors, dans certains cas, probablement. Si on parle des jouets, par exemple, on peut espérer que les gens, effectivement, vont pouvoir faire leurs courses de Noël.
Si tout n'a pas été acheté sur les plateformes.
Alors voilà, il y a ça, d'une part. Il y a ce qui a pu être acheté sur les plateformes, qui effectivement ne sera pas acheté dans les commerces. Et puis, on sait très bien que, par exemple, si on parle de l'habillement, il y a certaines choses qui ne sont pas rattrapées et qui ne seront pas rattrapables. Oui. Donc on ne récupérera pas l'intégralité. Et quand on parle de réouverture, on sait très bien aussi que cette réouverture s'effectuera dans des conditions sanitaires particulières qui ne permettront pas de récupérer l'ensemble de la clientèle et du chiffre d'affaires. Et donc, il faudra impérativement maintenir des aides pour ces commerçants.
Oui, il y a un protocole sanitaire qui a été arbitré avec Bercy. Je crois que c'était vendredi. La jauge passerait à 8 mètres carrés par personne contre 4 mètres carrés avant le reconfinement, y compris d'ailleurs dans les grandes surfaces et hypermarchés. Les surfaces de plus de 400 mètres carrés, il faudra donc réguler évidemment le nombre de personnes à l'entrée et à la sortie, les compter pour que ça ne se bouscule pas à l'intérieur des moyennes et grandes surfaces. Francis Palombi, est-ce que vous êtes soulagé de cette réouverture qu'on attend imminente des petits commerçants? Moi, je me souviens, je vous ai reçu il y a un mois, vous étiez abattu et vous me disiez on n'arrive plus à tenir les commerçants qui sont vent debout et la colère gronde sur le terrain.
Alors, la colère n'a pas complètement disparu chez les commerçants. Il y a quand même une tension, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, il y a des situations économiques, comme l'a dit mon collègue Jean Duménil de la CPME, il y a des situations gravissimes.
Oui.
Et les aides de l'État devront continuer, même les 20 milliards, 15 plus 5 qui ont été affectés par le gouvernement, il faut le reconnaître quand même, pour soutenir sur ce mois de novembre, début décembre, les entreprises, il faudra continuer, renforcer ces aides, parce que sinon, ça risquerait d'être des faillites. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants de la jauge.
Oui.
Alors, bien évidemment, moi, je porte principalement des très petites entreprises dont les surfaces sont de 30 à 100 mètres carrés, à peu près.
Donc, ce sera un problème pour ces entreprises-là? Pour ces commerçants?
Pour les très petits magasins, c'est plutôt un problème, oui, de passer de 4 à 8. Alors, c'est vrai que si les mesures techniques se précisent ou sont établies comme c'est le cas, le calcul n'est pas le même pour 8 que pour 4. Alors, mais nous aurions espéré que jusqu'à 100 mètres carrés, oui, ça reste à 4.
On dit justement, pour parler de ces protocoles, Jean Duménil, que les horaires d'ouverture pourraient également être élargis pour permettre aux commerçants d'accueillir du monde, évidemment, étalé dans la journée avec des ouvertures le dimanche. Alors vous me direz, le dimanche est à peu près normal en période de Noël, puisque les magasins, sur les deux ou trois derniers week-ends de Noël, sont autorisés historiquement à le faire, mais ce sera le cas.
Alors je vous confirme qu'on a travaillé là-dessus avec les pouvoirs publics ces derniers jours. Effectivement, c'est une piste qui semble se dessiner, on aura confirmation tout à l'heure. C'est assez technique parce qu'en réalité, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les dimanches du maire qui permettent à chaque municipalité de donner aux commerçants présents dans la localité la capacité à ouvrir certains dimanches dans l'année. Et là, simplement, il faut le demander. C'est une demande individuelle qui doit être formulée avant. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, évidemment, c'est qu'on puisse avoir des dérogations automatiques pour que les commerçants puissent ouvrir dans la période de Noël et au-delà, qu'ils puissent ouvrir même de la même façon durant le mois de janvier, de façon à récupérer un peu de chiffre d'affaires.
Oui.
C'est ça dont on a besoin. Et en principe, on a eu l'assurance de la ministre du Travail, puisque c'est elle qui est compétente, que les préfets auront des consignes dans ce sens-là.
Bien, et on continue d'en parler ensemble. 19h27, vous restez avec nous. On entendra le professeur Gaudry dans quelques secondes sur la dimension sanitaire. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Oui, 19h30, c'est la suite de notre édition spéciale. À quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron, l'attente est forte hein, dans le pays avec un déconfinement partiel. Attention, l'Élysée ne veut pas parler de déconfinement. Le déconfinement restera de vigueur, mais il y aura un relâchement pour notamment les commerçants, pour les autorisations de déplacement. On attend cette prise de parole dans 30 minutes. On est toujours avec nos invités et notamment le professeur Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Question toute simple, professeur, pour commencer avec vous sur la dimension sanitaire. Est-ce que, au vu des chiffres, c'est un bon moment, c'est le bon timing pour commencer un déconfinement gradué?
Alors oui, on arrive à des chiffres qui commencent à être, on va dire, satisfaisants pour commencer ce déconfinement, puisque hier, il y avait déjà moins de 5000 personnes qui étaient atteintes du Covid, oui, dans la journée.
Ce qui était l'objectif donné Emmanuel Macron.
Mais il faut savoir que ça va monter probablement mardi, mercredi. C'est pour des questions de statistiques. Et ce qu'il faut regarder, c'est le lissage de ce chiffre-là sur 7 jours. Donc, on en est proche. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. C'est toujours un problème d'anticipation. Et dans l'anticipation, il y a la réouverture progressive, notamment
des commerces. Mais on est d'accord, je posais la question tout à l'heure à 18h20 à Axel Kahn, le généticien. On est d'accord que le pic de la seconde vague ou de la deuxième vague, en espérant qu'il n'y en ait pas une troisième, est derrière nous maintenant.
Alors oui, tout dépend de ce qu'on appelle le pic, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu les hospitalisations se réduire ces derniers jours. Alors en réanimation, ce n'est pas encore le cas, mais ça, on le sait que c'est en dernier lieu les réanimations qui vont se vider, puisque nos malades, malheureusement, restent pendant 2 à 3 semaines en réanimation et les malades les plus graves sont actuellement hospitalisés. Donc la charge de travail dans les secteurs de réanimation en Île-de-France et en France est très, très intense en ce moment. Les services sont très, très, très impactés actuellement. Mais on sait déjà que dans 2 semaines, ce sera beaucoup plus calme du fait que les contaminations en ville ont réduit.
Donc ça veut dire que la stratégie du gouvernement a été la bonne sur la fermeture des commerce, sur la fermeture des restaurants, sur la fermeture des bars et sur ce semi-confinement.
Alors, moi, encore une fois, je commente assez rarement les décisions politiques. Ceci dit, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que si on n'avait pas fait ce confinement, alors maintenant, on peut discuter des différentes possibilités, enfin, différentes façons de faire un confinement, mais si on n'avait pas fait ce confinement, on serait dans une situation bien plus dramatique. C'était nécessaire. Je pense que ça a été très très utile pour justement limiter la charge sur le système de soins.
Je vous pose la question et puis on fera réagir Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME qui représente donc les PME françaises, parce que je cite toujours cette étude moi qui m'a beaucoup frappé, qui a été publiée dans la revue Nature, qui pour la première fois a montré les lieux de contamination commerce par commerce. Et on y apprenait dans cette étude qui a été menée sur plus de 200 000 cas aux États-Unis et sur la mobilité des Américains qui étaient contaminés, que oui, les restaurants sont un endroit de contamination important, les bars également, les lieux de convivialité, mais pas les petits commerces. Donc on se dit, voilà, rétrospectivement, on aurait peut-être pu éviter de fermer les petits commerces non essentiels.
Probablement. Alors sur le plan sanitaire, moi, c'est pas mon... Ce n'est pas à moi de commenter, mais simplement cette étude dont vous parliez mettait en avant le fait qu'effectivement, il y a moins de contamination, semble-t-il, dans les petits commerces. Et du côté des commerçants, il y a eu un sentiment d'injustice parce qu'on leur avait demandé de faire des efforts, d'investir dans des équipements qu'ils ont fait, c'est-à-dire que quand ils recevaient les clients, ils faisaient respecter les gestes barrières. Et donc, ils avaient le sentiment d'avoir joué le rôle qui était leur pour éviter la propagation du virus. Et puis, tout d'un coup, on leur dit « on ferme ». Donc, c'est un premier sentiment, encore une fois, d'incompréhension, une forme d'injustice, et qui s'est doublé derrière d'une colère et d'une exaspération quand il y a eu ce débat parfaitement stupide sur les commerces essentiels ou pas essentiels. Oui. Est-ce que c'est moins essentiel que d'acheter un manteau, d'acheter un livre, que d'acheter un tuyau de douche? Point d'interrogation.
En tout cas, ce soir, le président de la République devrait annoncer l'ouverture des petits commerces pour tout le monde et non essentiels. Professeur Gaudry.
Moi, je partage ce point de vue. C'est-à-dire, si on discute, parce que ce qui a été fait peut toujours être critiqué et on peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que le risque de diffusion virale, il est important quand on reste dans un lieu pendant longtemps et quand on est démasqué. Là, c'est là que ça se passe. Donc, c'est sûr que malheureusement, ce sont les restaurateurs
les bars qui sont les premiers touchés, mais que là, vous allez acheter vos chaussures ou vous restez pas longtemps ou vous allez chercher des fleurs chez votre fleuriste,
oui.
Il y a quand même globalement un risque beaucoup plus faible. On le savait.
Professeur, un dernier mot sur la stratégie de déconfinement que devrait annoncer ce soir le président de la République. On nous dit en trois étapes. D'abord, l'ouverture des commerces non essentiels avec le protocole dont on parlait à l'instant. À partir du 15 décembre ou autour de cette date, une circulation plus importante pour tous les Français afin de leur permettre de se retrouver en famille, avec un couvre-feu normalement entre 21h et 7h du matin qui pourrait être décidé. Et puis un troisième temps, vers la mi-janvier, et là c'est important parce que ça donne un cap à la profession des cafetiers, des restaurateurs et des hôteliers qu'ils demandent depuis longtemps, une réouverture aussi partielle. Est-ce que ça vous semble une bonne méthodologie de déconfinement ?
C'est ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire un déconfinement progressif et surtout en tirant les enseignements du premier déconfinement et en essayant de faire mieux. Alors ce sera pas facile parce qu'on aura tous envie de retourner vivre normalement. Néanmoins, il y aura des éléments qu'on pourra probablement améliorer dans le déconfinement. Et puis surtout, il ne faut pas oublier quelque chose, parce que je pense qu'il faut quand même s'accrocher à quelque chose qui est important, à donner de l'espoir aux gens, parce que je pense que c'est un élément fondamental. Au début de l'année prochaine, nous aurons très probablement le vaccin qui sera disponible.
On l'espère.
Et ça fera partie de l'outil essentiel pour contrôler cette épidémie et donc pour revivre à peu près normalement.
Question, et puis on marque une nouvelle pause, Jean-Yves Duménil. Vous êtes favorable, vous, à un assouplissement du télétravail en entreprise ?
Assouplissement. On est favorable à ce qu'effectivement les entreprises qui le peuvent aillent vers davantage, enfin vers du télétravail, comme elles le font aujourd'hui.
Oui.
Simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est une obligation.
Une contrainte. Oui.
Mais bien sûr, on ne veut pas d'obligation sans tenir compte de la réalité des entreprises. Maintenant, celles qui sont en capacité de faire du télétravail, elles le font aujourd'hui. C'est très bien comme ça et je pense qu'elles continueront à le faire tant que les pouvoirs publics leur demanderont. Mais il faut s'adapter à la réalité des entreprises, à leur taille, à leur type d'activité. Un boulanger ne pourra jamais faire du télétravail, qu'on le veuille ou pas, par exemple.
Oui, à moins de manger une baguette virtuelle, mais ça me paraît compliqué parce que c'est pas simple. Merci, vous restez avec nous, évidemment, 19h36, vous restez avec nous, vous aussi, qui nous écoutez dans votre voiture ou à la maison. Et dans un instant, on ira du côté de Cannes pour retrouver Florence Kamerman. Vous savez, cette libraire que nous avions eue au téléphone plusieurs fois depuis le début de la crise, qui avait refusé de fermer sa librairie. On entendra sa réaction avant les annonces d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Oui, 19h40, édition spéciale, à quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. On attend beaucoup, beaucoup de choses ce soir à propos de cette stratégie de déconfinement graduel, l'ouverture des commerces, la reprise des activités pour les plus jeunes, les lieux de culte, la règle du 1 km, beaucoup de questions et beaucoup de réponses à préciser par le chef de l'État ce soir. Et on continue d'en parler donc jusqu'à 20h avec nos invités. Vous pourrez suivre évidemment cette prise de parole en direct avec nous sur Europe 1. Et on est en ligne donc avec Florence Kamerman, propriétaire de la librairie Autour d'un livre à Cannes. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
On est ravis de vous retrouver car on vous avait eu plusieurs fois en ligne directe dans le 18-20 notamment et vous nous aviez expliqué que vous aviez décidé de résister et de rester ouverte malgré les menaces de fermeture administrative, malgré les visites répétées des officiers de policiers dans la ville de Cannes. Vous aviez eu le soutien d'ailleurs du maire de Cannes, monsieur Linard. Vous êtes
absolument
soulagé ce soir j'imagine à l'idée d'une réouverture dans les jours à venir ?
Écoutez, soulagé, oui, mais tout va être une question de date. Ces derniers jours, il y a une valse de dates, le 26, le 27, le 1er, etc. Le plus tôt serait le mieux, parce que chaque jour compte. Et moi, j'aurais trouvé que dans la logique et dans le bon sens, il aurait mieux valu ouvrir un peu plus tôt, aux alentours du 15 novembre, pour éviter une cohue dans les boutiques.
Oui.
Donc nous avons décidé d'engager quelqu'un pendant le mois de décembre pour réguler les entrées, parce que nous ne sommes pas irresponsables, contrairement à ce que le gouvernement a pu penser. Nous sommes extrêmement vigilants et nous allons recruter quelqu'un qui va réguler les entrées en boutique et on va faire évidemment être très très vigilants.
Et jusqu'à présent, madame, vous avez réussi à échapper à la fermeture administrative. Vous nous disiez la dernière fois que vous étiez menacée.
Nous avons eu 4 visites de la police et la dernière, évidemment, le policier nous a apporté lors de la dernière visite la mise en demeure de fermeture administrative immédiate. Donc là, pour le coup, nous nous sommes un peu retranchés, nous avons plié pour ne pas rompre et avons repris un système de click and collect. Mais les 15 jours où nous sommes restés ouverts ont sauvé clairement la librairie.
Sinon, c'était la fermeture du rideau pour toujours.
Ah bah sinon, avant la fin de l'année, on baissait le rideau, on mettait la clé sous la porte. Je veux dire, c'était évident financièrement, économiquement, nous n'aurions pas tenu.
Oui.
Et puis il y a l'autre combat, qui est le combat philosophique. La librairie doit être considérée comme un commerce absolument essentiel, voire vital. Je veux dire, particulièrement en période de confinement, de regain du terrorisme, etc. Donc autant dire que le combat a été double, économique pour la librairie, mais aussi pour que, dans le cadre d'un éventuel troisième confinement, il soit bien entendu que la librairie doit être un commerce essentiel.
Message entendu. Merci infiniment, Madame Kamerman, d'avoir témoigné ce soir en direct sur Europe 1. Professeur Gaudry, un troisième confinement, ça c'est possible? Une troisième vague et qui justifie un troisième confinement?
Alors,
je vous pose la question parce que après le premier confinement le 14 juillet, le président de la République nous avait dit vous inquiétez pas, on sera prêt.
Oui.
Et puis rebelote, on a été obligé d'être confiné.
La réponse est très claire. Il faut absolument dire que c'est possible, mais qu'on va tout faire pour l'éviter. Donc les anticipations, la boule de cristal, ça ne marche pas. Ce qu'on sait, c'est que ce virus peut revenir. On le sait maintenant, on l'a vu. Donc il n'y a pas à discuter autour de cela. Et donc ce qu'il faut faire, c'est le maximum pour que ça ne revienne pas. Il y a des outils qu'on a, de nouveaux outils qu'on a par rapport au premier déconfinement.
Oui.
On a plus de tests antigéniques et probablement, même s'ils sont moins performants, je pense qu'il faut qu'ils soient utilisés dans la démarche globale de protection de la population et d'éviter pour que le virus circule. Il y a le vaccin qui va venir et tout ça, ça nous permet d'aller vers de l'avant et d'espérer quand même que les choses s'améliorent et d'espérer qu'il n'y ait pas une troisième vague nécessitant un troisième confinement.
On l'espère tous. Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, est-ce que vous attendez aussi ce soir des annonces concernant de nouvelles mesures d'aide, de soutien aux entreprises, à l'économie et évidemment aux PME?
Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'on a réclamé à chaque fois et ce qu'on a reproché d'une certaine manière au gouvernement, c'est de faire des annonces de restrictions sans faire en parallèle, en même temps, les annonces de soutien aux entreprises. Il y a toujours un décalage et ça, pour les chefs d'entreprise, c'est absolument catastrophique.
Je crois que vous militiez, par exemple, il y a une quinzaine de jours pour des aides supplémentaires en faveur des PME, notamment un étalement dans le temps jusqu'à 10 ans du remboursement des PGE, les prêts garantis pour l'État. Vous en êtes où là-dessus?
Oui, bah écoutez, c'est assez simple. C'est que sur le prêt garanti par l'État, il y a plus de 500 000 entreprises qui en ont profité et il y avait un différé de remboursement d'un an. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, les entreprises auraient dû commencer à rembourser le PGE. Malheureusement, on voit bien la situation telle qu'elle est aujourd'hui et énormément d'entreprises n'auraient tout simplement pas été en capacité de commencer à rembourser. Donc pour elles,
donc,
on n'a pas d'autre choix
que
d'étaler dans le temps. Et nous, on milite en faveur de ce qu'on appelle un prêt consolidation réunissant l'ensemble des dettes liées à la période Covid, les regroupant et les étalant leur remboursement sur une période plus longue, comme on fait pour les citoyens qui sont dans un cadre de surendettement. Bah, faisons la même chose pour les entreprises.
Oui.
Et on pourra sauver énormément d'entreprises.
La hausse du crédit d'impôt pour les bailleurs afin de soulager les entreprises sur la question du loyer. Je crois qu'on est passé de 30 à 50%. Est-ce qu'on y est là à peu près? Est-ce que ça suffit pour soutenir les entreprises
ça suffira
qui
pas
continuent, on le rappelle, de payer des loyers alors qu'ils ont une activité et un chiffre d'affaires à zéro?
Alors, une des difficultés, c'est un effort important par rapport à ce qui était prévu initialement. La difficulté, c'est que ça serait à partir du deuxième confinement. Or, on a des gens qui traînent toujours des loyers impayés de la première période de confinement. Donc pour eux, il va bien falloir trouver des solutions. Et puis des trous dans la raquette, il y en a d'autres. Il y a la question des stocks, par exemple. Quand vous êtes un commerçant habillement et que vous avez constitué des stocks de vêtements pour la saison, vous avez sorti de la trésorerie. Si vous n'êtes pas en capacité de les vendre, vous n'aurez pas de trésorerie pour renouveler votre collection derrière. Donc l'entreprise sera en danger.
19h46, dans quelques secondes maintenant, la prise de parole du chef de l'État. Vous restez évidemment avec nous. Je voudrais vous interroger brièvement, Jean-Yves Duménil. J'ai été un peu surpris par les déclarations des responsables du MEDEF et de la CPME. Alors il y a quelques jours, le patron du MEDEF, Geoffroy Drouot de Bézieux, disait qu'il n'était pas raisonnable de vouloir décaler le Black Friday. Et François Asselin, votre président, disait « ça n'est pas possible, on ne peut pas arrêter ». La marée montante. Alors j'ai été un peu étonné parce que généralement, le MEDEF est combatif et que finalement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, y est parvenu à décaler le Black Friday. Et heureusement, parce que ça fait du bien à nos commerçants, ça.
Alors en tout cas, du côté de la CPME, ce que je peux vous dire, c'est que le Black Friday, c'est une opération commerciale. Donc ce sont les enseignes qui pratiquent le Black Friday qui décident de la date d'application. Il n'y a pas un texte disant aujourd'hui, ça va être le Black Friday. Donc il y a eu un accord qui a été trouvé, c'est une très bonne chose, avec des grandes enseignes, précisément pour décaler le Black Friday. Mais vous, comme moi, on a tous reçu sur nos téléphones portables des annonces de Black Friday maintenues à la date.
Oui.
Donc c'était dans ce sens-là que la marée montante ne pouvait pas être arrêtée.
C'est vrai.
Mais tout ce qu'on peut faire pour éviter que la réouverture se traduise par un afflux massif et brutal de personnes dans les magasins, évidemment, on y a tous intérêt sur le plan sanitaire. Et ce que disait le professeur tout à l'heure, on est parfaitement d'accord. il n'y a pas le sanitaire d'un côté, l'économique de l'autre. Les deux sont liés, bien évidemment.
Professeur Stéphane Gaudry, vous attendez des annonces aussi sur la stratégie de vaccination de la France?
Oui, je pense que c'est très important. En tout cas, je sais qu'il y a des groupes de travail qui planchent un petit peu là-dessus. Il va falloir que, avant que le vaccin arrive, on ait déjà prévu comment on va vacciner, qui on va vacciner.
On a l'impression qu'on est déjà en retard sur le sujet par rapport à l'Allemagne. C'est une vue d'esprit ou c'est une réalité?
Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà bien leur plan en tête sur comment les choses vont se passer. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de communication. Mais on est dans un pays, malheureusement, où vous le savez, il y a un petit peu de fausses informations qui tournent autour des vaccins et d'anti-vaccins. Et malheureusement, je pense que c'est plus compliqué que dans d'autres pays de mettre en place un certain plan.
Mais on est aussi le pays des comités Théodule. C'est pour ça que je vous pose la question. Parfois, on a tendance à se prendre un peu le...
Ce qui va être très important, c'est de donner une information correcte sur comment s'est fait ce vaccin. Et en fait, pour bien expliquer à la population qu'il a suivi la même procédure de qualité que n'importe quel autre agent de santé qu'on donne à des patients. Donc, ce sera le même niveau de sécurité que n'importe quel autre vaccin. C'est ça qui est très important et c'est ça que les Français doivent comprendre. Et pour éviter d'avoir une catastrophe nouvelle, il va falloir qu'on trouve en tout cas les moyens de bien informer les gens autour du vaccin.
Alors, restez avec nous, 19h48, dans 12 minutes maintenant, l'allocution du président de la République. On est toujours avec nos invités et on va suivre tout cela ensemble en direct. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Et dans 8 minutes, on suivra ensemble l'allocution du chef de l'État, édition spéciale, effectivement, jusqu'à 20h. Et puis, on se retrouvera avec nos invités après pour le débrief. On est notamment avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME. Jean-Hugues Duménil, on évoquait avec le professeur Gaudry cette campagne de vaccination, on imagine que le président de la République devrait s'exprimer sur le sujet. C'est vrai qu'il y a une défiance en France vis-à-vis des vaccins et notamment vis-à-vis de ce vaccin anti-Covid qui devrait arriver dans les mois qui viennent en France. Est-ce que vous appelez par exemple aux affiliés, les patrons de PME à se vacciner d'abord et puis à profiter de ce moment pour lancer des campagnes de vaccination dans leurs entreprises peut-être?
Alors, lancer les campagnes de vaccination dans les PME, non, tout simplement, parce que ce n'est pas le rôle du chef d'entreprise. Et puis surtout, ce n'est pas le chef d'entreprise lui-même qui va vacciner ses salariés.
Parce que c'est se protéger économiquement aussi pour le...
Bien sûr, mais alors par contre, pour répondre à votre question, est-ce qu'on souhaite que la vaccination se répande? Évidemment, bien sûr que oui, pour une raison très simple, c'est que notre intérêt commun, c'est que les entreprises puissent travailler dans des conditions normales et qu'on sorte de cette période terrible. Et on ne peut pas être à la fois... contre la Covid en disant que c'est catastrophique pour l'économie, ce qui est le cas aujourd'hui, et contre la solution qui est celle du vaccin. Enfin, il faut un peu de cohérence.
Oui, vous êtes d'accord, professeur Gaudry, il faut appeler les Français à se vacciner massivement, la question de l'obligation, à mon avis, est un faux sujet, parce que tous les médecins, moi, me répondent quand je leur pose la question. Ça serait dramatique, parce que ça enverrait le message inverse.
C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté l'éducation autour de la recherche, de la science et de comment on développe un médicament ou un vaccin, et comprendre que ça suit un certain protocole avec des gages de qualité et que les vaccins qui vont être proposés en France seront des vaccins qui auront suivi parfaitement ce protocole pour permettre une sécurisation parfaite. Et donc les vaccins apportent un bénéfice absolument considérable en termes de propagation des maladies infectieuses, on le sait. Et donc, il faut donner cette information-là, qui est une information cohérente et qui est bonne pour toute la population, qu'on soit soignant, pas soignant. Tout le monde va y trouver son compte si on arrive à définitivement mettre le Covid derrière nous.
Jean-Yves Duménil, on sait que la CPME, comme le MEDEF, est en lien direct avec le cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'économie à Bercy. Il s'est battu comme un lion pour obtenir cette ouverture et cet assouplissement auprès du président de la République.
Écoutez, oui, il semblerait effectivement qu'il ait milité dans ce sens-là. Ça étant dit, il était aussi ministre de l'économie quand la décision a été prise de fermer les petits commerces et de distinguer entre l'aspect dit essentiel et non essentiel. Donc, il était bien, effectivement, enfin, il serait bien, parce qu'on n'a pas encore confirmation totale et définitive, et il serait bien, effectivement, qu'on rentre dans quelque chose de normal et que les commerçants puissent travailler dans des conditions de sécurité sanitaire. Nous, on a été très frappés ces jours-ci de constater les quelques mouvements de colère, encore une fois, on peut les entendre et les comprendre, de commerçants qui descendaient dans la rue, et les slogans qui étaient sur les panneaux, c'était « Laissez-nous travailler ». des gens qui manifestent pour qu'on les laisse travailler, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Francis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vous qui le dites. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, nous a retrouvés à nouveau. Francis Palombi, on est à quelques secondes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Vous croisez les doigts et vous y croyez dur comme fer à la réouverture des petits commerces?
Oui, je pense que, très sincèrement, en tant que président des commerçants de France, des très petites entreprises, les plus fragiles, souvent les plus affectées par ce Covid-19, après 2 ans de labeur, de manifestations, gilets jaunes, grèves, etc., il n'y a pas d'autre solution que de réouvrir en respectant les normes sanitaires, même renforcées, avec quelques adaptations, nous le pensons et nous l'espérons.
Mais on joue gros quand même, M. Palombi, parce que si on se dirige vers une troisième vague, personne ne le souhaite, mais si ça arrive, les commerçants ne pourront pas le supporter cette fois-ci.
Écoutez, mon collègue de la CPME l'a dit il y a quelques minutes, si les aides d'aventure faiblissaient ou s'arrêtaient, c'est la faillite. C'est le rideau qui descend et vous pouvez imaginer ce que ça coûte en termes de sur un plan humain, parce qu'il y a tous les effets secondaires humains, il y a des suicides en perspective, il y a des faillites, donc il faut respecter les règles sanitaires, bien sûr. Mais il faut réouvrir, il faut que l'économie... Il ne faut pas opposer l'économie au sanitaire, pas.
C'est ce qu'on disait juste avant
c'est des imbécilités.
Mais Jean Duménil, vous sentez qu'il y a une colère qui se focalise contre le gouvernement sur cette question de la fermeture des commerces non essentiels? Vous avez le ressenti que vous avez eu de
En tout cas,
de
dans la période récente, il y avait vraiment... C'était une désespérance. Et encore une fois, on peut comprendre les gens. Quand vous avez mis toute votre vie dans un commerce, dans une activité, et qu'on vous empêche de travailler, parce que c'est bien ça, on vous empêche d'ouvrir, alors qu'il n'y a aucune raison. Économiquement, votre fonds de commerce est viable, et finalement, vous êtes en train de le voir disparaître. Il y a de quoi être exaspéré. Donc, il faut impérativement que le gouvernement, la réponse du gouvernement, soit à la hauteur des sacrifices qu'on demande au commerce et aux chefs d'entreprise, parce que c'est ça aujourd'hui.
Et je dirais un mot de plus à ce que vient de dire Eudes, c'est que dans d'autres pays d'Europe, les commerces de centre-ville, les commerces n'ont pas forcément fermé aussi radicalement qu'en France. Alors ça accentue cette révolte, cette attente de réouverture. Donc,
c'est une bonne question, ce qu'évoque M. Palombi, professeur Stéphane Gaudry. Est-ce qu'on s'en sort mieux, nous, les Français, que nos voisins européens? Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs configurations. Hein. Parfois, on était plus cloisonnés qu'eux. Parfois, on était plus contaminés qu'eux. Avec plus de décès, moins de décès, on a eu un peu du mal à... Mais là, aujourd'hui, on s'en sort plutôt mieux que les autres.
C'est très compliqué à dire parce qu'on ne pourra dire ça qu'à la fin de la crise. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a certains qui s'en sont bien sortis au début et qui ont derrière été extrêmement impactés par cette crise. Et d'autres qui ont eu le phénomène inverse. Donc, à la fin, on verra bien où ça en est. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'en France, on n'a pas à rougir de ce qui s'est passé, en particulier sur le plan sanitaire que je connais. On a réussi, en tout cas, à donner à la population un niveau de soins qui était un niveau de soins très, très de grande qualité, en évitant les catastrophes qu'il y a eu dans certains pays où des patients n'ont pas pu être pris en charge.
Oui.
En tout cas, en France... Grâce au système de soins et grâce aux efforts de
toutes les
équipes.
On a été sur le fil, mais ça a tenu.
On a été sur le fil, ça. On a été dans des situations, et particulièrement dans le 93 où je travaille, je peux vous dire que la situation a été extrêmement tendue, mais grâce aux efforts de tous, aux efforts des équipes, aux efforts des Français qui se sont confinés correctement pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement, on a réussi à passer ce cap-là. Et je pense que là-dessus, on a de quoi être fiers.
Et en plus, le gouvernement a quand même soutenu les entreprises afin qu'elles ne ferment pas. Et ça, il faut quand même le reconnaître.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Eh bien, nous y sommes, la prise de parole d'Emmanuel Macron dans 15 secondes maintenant. Prise de parole très attendue. On va suivre ça évidemment ensemble sur Europe 1 et on se retrouve ensuite pour le débrief de ces annonces jusqu'à 21h. On écoute donc le chef de l'État qui nous annonce cette première phase de déconfinement gradué. Allocution qui se passe comme d'habitude à l'Élysée et qui devrait durer une vingtaine de minutes, nous dit-on.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, Quand le 28 octobre dernier, je me suis adressé à vous, je m'étais engagé à vous rendre compte de l'évolution de l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises en conséquence. Un mois plus tard, où en sommes-nous ? Le nombre de cas positifs journaliers à la Covid-19 a fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Après avoir atteint 33 500 patients hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la première vague, nous avons aussi commencé une lente décrue. Le nombre de personnes en réanimation du fait de la Covid-19 est passé de 4 900 le 16 novembre à 4 300 aujourd'hui. De ces données, il ressort que le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Lors de ma dernière intervention, nous redoutions des chiffres bien pires encore. Et nous les avons évités. D'une part, car nos efforts, vos efforts, ont payé. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace. Et d'autre part, parce que nous avons appris à mieux prendre en charge et traiter les patients atteints pour éviter certaines formes graves qui auraient frappé nos concitoyens et pesé encore plus sur nos services de réanimation. Je veux ici saluer le dévouement des soignants qui, en ville comme à l'hôpital, ont tenu, coopéré, innové, malgré la fatigue et la lassitude. Je salue tous les professionnels, les associatifs, les bénévoles qui ont aussi ici aidé. C'est tous ensemble que nous avons obtenu ces résultats. C'est tous ensemble que nous avons sauvé des vies. Si nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, nous ne devons pas perdre de vue nos autres préoccupations sanitaires. Il nous faut d'abord continuer de traiter, parfois de reprendre les soins pour les autres patients. Il nous faut aussi nous préparer à faire face aux conséquences de long terme liées au virus. Des scientifiques et des experts travaillent d'ores et déjà avec l'assurance maladie à un suivi de long terme des malades de la Covid-19. Je demande aussi au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en compte les conséquences psychologiques de la pandémie et des différents confinements. Je sais en particulier combien les personnes âgées, à domicile comme dans les maisons de retraite, combien les personnes en situation de handicap ont souffert et souffrent encore de leur isolement et combien nous devons les accompagner dans la durée. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement. Certes donc, nous avons freiné la circulation du virus. Mais il demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, où il circule encore très fortement. Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. Et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5000 personnes par jour et d'avoir entre 2500 à 3000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs ? Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois, au mieux, les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. L'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos Outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus et limiter au maximum les rassemblements. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles. Souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires en salle pour l'accueil des enfants durant les fêtes seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux. Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attractions, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes, resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes, malheureusement, durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités où l'on peut se protéger et où les distances, où les gestes barrières sont possibles. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment. Et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour de 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pouvons prendre des mesures supplémentaires d'ouverture ou si, au contraire, il nous faut revenir en arrière pour prévenir tout nouvel emballement de la propagation du virus. Car nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, tout faire pour éviter un troisième confinement. Pour cela, et durant les mois qui viennent, nous avons trois outils entre nos mains. Le premier, c'est l'esprit de responsabilité de tous. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison, lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour contrôler le virus. Tester. Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui testent le plus. Mais début janvier, aucun test ne devra mettre plus de 24 heures entre la demande de test et son résultat. Ce sera vrai des tests PCR que nous continuerons de déployer. Quant aux tests antigéniques, qui permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, ils seront utilisés massivement, en particulier pour les personnes qui ont des symptômes ou lorsqu'il faut dépister rapidement, par exemple dans une école ou dans une maison de retraite. En la matière, les innovations continuent de se poursuivre et permettront, je l'espère, de faire encore mieux et plus simplement. Alerter. Nous devons, dans les prochaines semaines, améliorer notre organisation afin de casser beaucoup plus rapidement les chaînes de contamination à la racine en identifiant plus complètement l'ensemble de ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été exposés à quelqu'un qui a la Covid-19. L'application Tous Anti-Covid, que vous êtes près de 10 millions à avoir téléchargée, et il faut continuer, est essentiel pour les identifier. Utilisons-la au maximum dans les commerces et lorsqu'ils ouvriront, dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse pour appuyer l'assurance maladie. D'ores et déjà, plus de 10 000 personnes appellent chaque jour les cas contacts et nous allons continuer de former, d'engager de nouveaux volontaires pour encore nous améliorer. Protéger. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoit les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Soigner, traiter. Beaucoup de progrès ont été faits et nous pouvons nous féliciter de la mobilisation de nos soignants. Nous devons continuer d'améliorer la prise en charge et le traitement dès le diagnostic en médecine de ville et à l'hôpital pour réduire encore davantage les formes graves. Le troisième outil, enfin, qui nous permettra de faire face au virus durant les prochaines semaines et les prochains mois, et pour nous tous une formidable lueur d'espoir, c'est le vaccin. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission, en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en capacité d'en produire au maximum en Europe, et le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Ensuite, garantir la sécurité sanitaire. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain, mais nous pouvons, j'en ai la conviction, maîtriser l'épidémie dans la durée. Nous avons les moyens, collectivement, de réussir à maîtriser puis vaincre ce virus. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une responsabilité à tenir. Nous avons dans le même temps à faire face à une crise économique et sociale inédite. Elle est la conséquence du premier confinement et de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous l'annonçais dès le mois de juillet dernier. La crise va vraisemblablement encore s'aggraver, mais nous avons une réponse à apporter et nous l'avons fait dès le début. En effet, depuis le premier jour, nous agissons. Pour les salariés, avec le chômage partiel, pour les plus précaires, avec des aides ponctuelles et la prolongation des droits, en particulier pour les chômeurs, pour les entreprises et les indépendants, avec notamment les prêts garantis par l'État, les annulations et reports de charges, le fonds de solidarité. Quoi qu'il en coûte, n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Nous avons renforcé cette réponse lors de la deuxième vague. Et je veux ici remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui, en concertant, en travaillant, a permis de compléter les choses. De nouvelles aides sociales ont été décidées. 150 euros seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant les allocations logement. 100 euros par enfant seront versés pour les familles bénéficiant des APL. Au total, 4 millions de familles et 1 300 000 jeunes seront aidés. Les aides aux entreprises ont été significativement renforcées en décalant les échéances des prêts garantis par l'État, en exonérant à nouveau des charges, en augmentant à 10 000 euros le fonds de solidarité, notamment pour ceux à qui, indépendants, commerçants, entreprises, nous avons demandé, j'en ai conscience, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, alors même qu'ils craignaient de perdre le fruit d'une vie de travail. Ils sont tous essentiels, tous. à la vie de notre nation. Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement, se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, si cette option est préférable pour eux aux 10 000 euros du fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir. Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillent les années précédentes mais ne retrouvent plus d'emploi, les jeunes qui n'arrivent à trouver ni emploi étudiant ni premier emploi, trouvons une réponse exceptionnelle à leur situation. Le gouvernement présentera cette réponse dans les prochains jours. Le plan Un jeune, une solution fera l'objet de moyens accrus et j'invite tous les jeunes à se renseigner sur la plateforme prévue à cet effet. Toutes ces décisions sont le fruit de larges consultations menées par le Premier ministre et son gouvernement avec les partenaires sociaux, les élus locaux, les forces politiques. Elles sont éclairées par la science. Il y a certes beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, mais j'assume pleinement les décisions que je vous expose aujourd'hui. Et j'assume de les prendre pour vous protéger au maximum dans ce contexte exceptionnel. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et il nous faut garder en la matière beaucoup d'humilité, ce virus nous l'a appris. Mais je ferai tout ce que je peux pour me battre à vos côtés, pour vous protéger et réussir à maîtriser cette épidémie. Cette épreuve qui dure depuis bientôt un an est difficile pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas au bout. Et je ne veux pas que nous nous laissions aller ni à la résignation, ni à la colère. Je suis optimiste, car toute crise comporte une part de progrès, une part d'espérance. Regardez comme ces 9 derniers mois nous ont permis aussi de réussir ce que longtemps nous avions pensé impossible. Nous avons su rendre notre État plus efficace pour faire face à l'urgence sanitaire comme économique. Nous avons collectivement transformé l'hôpital, notre système de soins. Nous nous sommes appuyés sur le numérique pour rapprocher les commerçants des citoyens dans les territoires. Pour continuer à travailler, à apprendre, à soigner, nous avons fait preuve d'une capacité d'innovation, d'un sens de l'inventivité qui seront décisifs pour construire le futur et affronter les crises qui viennent. Nous avons été solidaires comme jamais. Nous avons aussi identifié certaines de nos faiblesses. Une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, parfois un sens des responsabilités inégales, un manque de souveraineté, parfois aussi pour certaines de nos productions. Dans les prochains mois, il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir. Pour ce faire, nous devrons nous en remettre au savoir et à la science, ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Nous devrons continuer à innover, à créer, à entreprendre. C'est la force de l'esprit français. Nous aurons à redresser notre économie tout à la fois en investissant, en travaillant et en étant solidaires. À ce titre, le plan de relance de 100 milliards d'euros permet de préparer l'avenir de notre économie en créant des emplois dans des secteurs nouveaux et en les développant. Mais pour les semaines à venir, nous devons chacune, chacun, à la nation, l'esprit de responsabilité. Nous nous devons, les uns aux autres, aussi, beaucoup de bienveillance. Les esprits sont parfois fatigués et les débats s'échauffent. Et dans cette période, nous ne devons pas nous laisser nous emporter. Tenons-nous ensemble, autour de nos valeurs, autour de notre histoire, dans cet attachement à notre démocratie, à notre humanisme qui demeure aujourd'hui comme hier, nos plus sûrs atouts. Alors, nous pourrons inventer un nouvel avenir français. Mes chers compatriotes, une nouvelle fois, nous serons, j'en ai la certitude, au rendez-vous des défis des semaines et des mois qui viennent. Notre génération a ensemble à vaincre cette épidémie, à affronter le terrorisme, à affronter la crise climatique et celle des inégalités. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Vive la République, vive la France.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Voilà pour cette intervention du chef de l'État. 26 minutes et toutes les informations que nous vous donnions depuis quelques jours se confirment donc avec une nouvelle étape à partir du samedi 28 novembre au matin. Ça, c'est la grande nouvelle du soir. Ça y est, les petits commerçants et les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, est à côté de moi. Il applaudit, il a le sourire. Votre réaction ?
Mais imaginez, il y a des commerçants qui ne pouvaient plus se nourrir même, qui étaient en effet dans un cadre très dégradé. Et réouvrir pour des entrepreneurs, pour des commerçants, c'était sacré. C'était un gros soulagement et je l'ai dit si souvent sur vos plateaux, il faut absolument que le président prenne conscience qu'il faut nous laisser retravailler en termes de commerce, parce que le commerce, c'est quand même la présence des clients, c'est le lien social, c'est l'échange, c'est le retour à des villes qui vont revivre. Et je me félicite bien sûr de ces propos. Et nous serons très, très responsables et vigilants pour respecter les règles
sanitaires.
C'est
la question que j'allais vous poser. Vous mesurez aussi l'enjeu qui est le vôtre, car les protocoles sanitaires devront évidemment être respectés. Et si l'épidémie repart, ça ne sera pas nécessairement la faute des petits commerçants, évidemment, mais si l'épidémie repart, vous serez une nouvelle fois sans doute les premiers sanctionnés.
On sera, comme on l'a été, les boucs émissaires de cette situation. Oui. Mais ne le soyons plus. Il a parlé d'optimisme, il a parlé d'espoir. Je crois que ça doit, et de solidarité aussi, ça fait, et de responsabilité, ça fait partie de nos devoirs.
Oui, restons solidaires, c'est un mot effectivement, Louis Dragnel, qui est revenu à plusieurs reprises. Alors, nouvelle étape à partir du samedi 28 novembre au matin, les petits commerçants vont pouvoir rouvrir, et puis les déplacements seront autorisés dans un rayon de 20 km, et pour 3 heures, et non plus pour simplement une heure. Ça, c'est une nouveauté également. Les activités sportives pour enfants aussi pourront reprendre. Alors, le président de la République l'avait laissé entendre depuis plusieurs jours, mais il le confirme.
Oui, l'idée, là, c'était d'abord et avant tout de fixer un calendrier. Donc, tout le monde est un peu fixé avec ces trois dates.
Très précis. Donc,
c'est bien. Hein,
exactement.
C'est,
voilà, donc,
c'est ce que tout le monde recommande.
Il y avait une attente, il y avait une demande quand même très pressante. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. La deuxième chose, c'est que ce qui était très au cœur de son discours, c'est la question de l'acceptation sociale, qu'on a beaucoup évoqué à longueur d'émission, avec notamment la question du secteur culturel, donc les entreprises, les commerces non essentiels. Donc ça, on a bien vu qu'il a insisté sur ce sujet-là.
Je donne la date quand même, Louis Dragnel, hein, 15 décembre, fin du confinement. Il a quand même prononcé le mot, ça c'est important, parce qu'on avait dit qu'il ne prononcerait pas le mot déconfinement. Il a quand même dit que ça sera la fin du confinement, donc déconfinement, libre circulation des individus.
Avec un point très important, un couvre-feu quand même. Pas oublier ça.
On va y venir, on va faire les choses dans l'ordre. Libre circulation des individus, et vous parliez de la culture, reprise des théâtres à partir du 15 décembre, reprise des spectacles vivants, reprise des projections dans les salles de cinéma.
Voilà, et donc ça c'était un peu le deuxième élément. Ensuite, il y a un élément très symbolique qui était au cœur de sa déclaration, c'est la question de Noël. Il a clairement expliqué que Noël ne serait pas un Noël comme les autres, en expliquant qu'il y avait des limitations. Alors, il y avait une idée d'une jauge qui circulait jusqu'à aujourd'hui, qui était fixée à 10 personnes, mais là, on voit que le président n'a pas voulu donner de chiffres, d'indications, tout en expliquant que ce Noël ne serait pas comme les autres. Et enfin, la question des jauges pour la messe de Noël pour les cérémonies religieuses, qui est fixée à 30 personnes, donc ce sera forcément un peu plus compliqué pour beaucoup de gens.
Mais et enfin, il y aura des offices religieux.
La transformation du pays aussi, il a essayé aussi de se projeter, en expliquant que il fallait que le pays réussisse en fait à trouver des éléments positifs de cette crise, et il a cité quelques exemples.
Alors vous allez peut-être un peu vite, parce qu'il y a une autre date qui a été citée et qui est importante. On va finir le tour de table avec Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1, et Ève Roger qui nous a rejoint également, chef du service société d'Europe 1. L'autre date importante, c'est le 20 janvier. le 20 janvier. Ça y est, nous y sommes, la réouverture des bars et des restaurants. Alors évidemment, si on reste en dessous des 5000 cas quotidiens, M. Palombi me dit aussi et me rappelle qu'il a parlé des universités, des écoles pour les étudiants. Voilà, le 20 janvier, il y a une reprise de l'économie et du pays, presque la vie d'avant.
Bien évidemment, je pense que malgré tout, quand vous êtes restaurateur ce soir, vous vous dites, mais le 20 janvier, c'est 2049. Mmh. C'est quand même, je pense, le premier point. Si vous vous rendez compte, vous ratez les périodes de fin d'année, et là, il n'y a aucune clause de revoyure possible. Mmh. Et je trouve que même la formulation, quand il dit au moins le 20 janvier, on sent bien qu'il y a une énorme peur. Alors, je pense que c'est parce qu'il veut nous faire peur de cela pour qu'on soit sérieux à Noël et au jour de l'an. Mais la date du 20 janvier, il a bien précisé pourquoi c'est si tard. C'est parce qu'on sait qu'il faut environ 15 jours pour que les contaminations arrivent. Donc je peux vous dire qu'aux alentours du 15, 16, 17, il va falloir surveiller à combien on sera au niveau de l'épidémie.
Oui, parce qu'il y a le réveillon du Nouvel An qui va passer par là. Donc
il y a le réveillon
si
du Nouvel An qui passe par là,
prudent,
il y a le réveillon de Noël. Donc si personne n'est sérieux, ou si peu de gens sont
24,
sérieux,
25,
il va y avoir effectivement un problème. Malgré tout, ce qui était la demande la plus forte de toute la communauté, des hôtels, des restaurants et tout ça,
c'est un cap.
C'est un cap et c'est une date fixe. Je peux vous dire qu'en revanche, il y a des gens heureux puisque je viens de voir à l'instant même le graphique des réservations à la SNCF à 20h08. Vous avez un pic, comme ils n'ont pas vu depuis longtemps, de réservations puisque les gens vont pouvoir bouger. C'est assez impressionnant, le pic à 20h08.
Ève Roger.
Oui, alors moi je remarque le 20 janvier, j'ai écrit sur mon papier couvre-feu décalé. Ça veut dire qu'il y a encore un couvre-feu, sans doute jusqu'à 22h, ce qui n'est pas la libération totale. Enfin, moi je retiens les bonnes nouvelles.
Ça veut dire de 22h jusqu'à 6h du matin.
Voilà, c'est ça, jusqu'à de 22h jusqu'à 6 ou 7h du matin. Ça veut dire qu'on ne sera pas complètement libéré non plus. Et c'est vrai que nous, on a interrogé aujourd'hui ceux qui font les projections. Les 5000 contaminations, on va y arriver effectivement autour du 15 décembre. Mais c'est vrai que tout est possible à partir de début janvier, il a dit vraiment il faut qu'on soit autour des 5000 contaminations. On a vu à quelle vitesse on était passé bien au-delà à la fin du mois de septembre. Donc c'est une perspective, mais c'est pas forcément ce qui va se passer début janvier. Et ce dont on est sûr, en revanche, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est plutôt la stratégie après pour éviter la troisième vague.
Campagne de vaccination, c'est important, on va l'évoquer dans un instant. Ça vous réjouit également, j'imagine, Francis Palombi, vous êtes président de la Confédération des commerçants de France, la réouverture attendu, on verra comment ça se passe, des restaurants, des bars, des discothèques aussi d'ailleurs, il l'a dit le président de la République, parce que les discothèques, non mais ça fait sourire, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont fermés depuis le printemps dernier.
À ma connaissance, c'est le seul secteur d'activité qui est fermé, parce que certains n'ont pas rouvert, comme par exemple certaines stations, certaines agences de voyage, mais volontairement, parce qu'il n'y avait pas de clients. Mais je crois que les discothèques sont effectivement les seules qui n'ont jamais rouvert depuis mars.
Francis Palombi.
Et autre chose quand même, parce que l'économie est toujours là, très présente et omniprésente, les aides renforcées, des mesures spécifiques encore plus importantes vers les restaurateurs.
Oui, qui verront verser 10% de leur chiffre d'affaires, c'est ça, s'ils ne sont pas...
20%.
Au choix. 20%.
Au choix.
Ou alors s'ils ne sont pas satisfaits des 10 000 euros...
C'est-à-dire qu'une très petite entreprise, le chiffre d'affaires, qui fait un chiffre pas très important, ce n'est pas vraiment la solution la plus idéale.
Mais par si contre, on fait un chiffre d'affaires très important, c'est mieux de prendre les 20%.
Ah, certainement, mais il laisse ça quand même à l'appréciation des chefs d'entreprise. Et je trouve que c'est une très bonne mesure, c'est une très bonne réaction de la part du
président. Vous pensez que les petits commerces et les commerçants, hein, dans leur ensemble que vous représentez, vont être capables, pendant la période jusqu'à Noël, là, de rattraper le manque à gagner, ou en tout cas ce qu'ils n'ont pas réussi à faire comme activité?
Là, d'un tempérament optimiste... d'une manière viscérale, là, je suis quand même moins affirmatif sur le rattrapage. Parce que ce n'est pas depuis le mois de mars que nous sommes en difficulté. Ça date depuis deux ans.
Oui, ce que vous disiez tout à l'heure.
Les grèves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on va quand même, avec des mesures, à Paris, les commerçants vont pouvoir vendre également sur des places de parking. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, je n'aurais pas été aussi affirmatif. Mais là, c'est une bonne chose. Tout ce qui peut permettre de rétablir le contact, de vendre, d'être dans un effet de commercialisation facilité est une bonne chose.
Et on va réécouter le président de la République avec l'annonce la plus importante, nouvelle étape donc, qui s'ouvrira, on l'a compris, à partir du samedi 28 novembre au matin. Mais la deuxième étape, c'est-à-dire le 15 décembre, Voilà ce qu'il a dit concernant le 15 décembre.
Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, alors le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions.
Voilà, et puis une information importante aussi, il n'y aura pas de rouverture, de réouverture, Emmanuel Duteil, des stations de ski avant janvier. C'est une annonce qui ne paraît pas grand-chose, mais c'est important parce qu'évidemment, c'est toute une économie. Le ski, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les stations françaises. Monsieur Palombi le rappelle, ce sont des centaines de milliers d'emplois, 120 000 emplois de saisonniers, et puis des centaines de milliers d'emplois par effet de ricochet. Et Noël, ça représente 25% de l'activité des stations de ski. Et il y avait une annonce qui a été faite il y a quelques jours, Emmanuel, qui nous disait que des négociations étaient en cours et que ça serait arbitré dans 10 jours. Là, le président de la République a fermé le banc.
Non, c'est le début de la phrase du président de la République. Il dit une négociation a été lancée et une décision doit être prise. Mais il a dit...
Ça me paraît
il
compliqué.
A quasiment dit, à titre personnel, ça me paraît compliqué. Mais il y a deux raisons principales pour cela. La première qui a été mise en avant lors de la réunion de cette semaine à Matignon, c'est l'accidentologie élevée sur les pistes de ski. Où est-ce qu'on met ces gens pendant qu'ils sont malades? Dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont déjà surchargés, première raison. Deuxième raison, il était hors de question de faire une exemption pour ouvrir les restaurants.
Non,
dans
mais
une
ça, les stations de ski étaient d'accord pour mettre un protocole sans les bars et sans les restaurants.
Bien sûr. Enfin bon, vous faites quoi dans une station de ski quand à
17h
à l'année
on fait
la cuisine, Emmanuel.
On peut manger un sandwich aussi.
Bien évidemment, on peut toujours se débrouiller. Qu'il ne voulait pas créer un sentiment d'exemption. Ouais. Et surtout, ce qu'il explique très bien, il n'y aura pas de rassemblement de foule. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des milliers de gens qui attendent en même temps en bas d'une remontée mécanique?
C'est du plein air.
C'est du plein air, enfin on peut
non,
toujours
mais je
trouver.
Je ne défends pas les stations de ski, j'essaie de juste entendre leurs arguments.
A priori, dans un stade de football, c'est aussi du plein air, parce dans la plupart des stades français.
Je dis ça parce que ça va faire grogner, parce que vous savez que dans le même temps, les Suisses et les Autrichiens, eux, ils ne se posent pas la question.
Oui, a priori, les Italiens vont faire la même
les
décision
stations
que
de ski.
Nous.
Donc ça veut dire que les Français pourront aller. Bon,
vous connaissez beaucoup de Français qui peuvent aller à Zermatt ou
en Suisse ou en Autriche. Non, mais je relais les arguments qui sont ceux des domaines skiables. Louis Dragnel.
Par rapport à cette intervention, en tout cas du chef de l'État, alors effectivement, il y a des espérances, mais il y a aussi, enfin, je pense qu'il faut retenir toutes ces contraintes. Il a quand même expliqué que la situation restait préoccupante et qu'il fallait continuer de faire des efforts. Roger, vous l'expliquiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conditions par rapport au déploiement, en tout cas, des deux prochaines étapes. Et donc, on n'est pas non plus tiré d'affaire pour autant. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut bien le garder à l'esprit, malgré... toutes ces bonnes nouvelles aussi quand même, notamment pour les petits commerces.
Alors, Ève Roger, le président de la République, a aussi rappelé que, un, le virus circule encore fortement, puisque la barre des 50 000 décès a été dépassée. Alors, c'est vrai qu'on on est passé sous la barre des 5 000 contaminations jour hier, mais avec...
Ah oui, alors mais il ne faut pas donner de faux espoirs.
Voilà, parce que la statistique du lundi est toujours un peu faussée raison du week-end.
Oui, c'est ça, les tests. Là, on est plutôt autour de 20 000 quand même. Il a dit 20 000 la semaine dernière, on va passer à 10 000, puis à 5 000, ça c'est vrai, les modélisations le disent. Après, oui.
Et avec toujours le triptyque qui est testé, voilà. Isolé, tracé, on connaît le triptyque.
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, mais il faut pouvoir décrypter en creux, c'est la partie isolement, c'est-à-dire que dans cette fois-ci, ce qui a
plus contraignant,
isolement beaucoup plus contraignant. Alors il dit il faut un débat démocratique. Donc on le sait, de toute façon, à l'Assemblée, il va y avoir une proposition de loi qui va être discutée. Mais si on entend bien ce que dit le président, l'idée c'est de rendre cet isolement obligatoire avec une sanction. Il a même dit qu'il peut aller jusqu'à, il l'a pas le dit, mais on le sait qu'il peut aller jusqu'à 1 500 euros. Mais en échange de cette obligation, il va y avoir un accompagnement. Et l'accompagnement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être, si cette proposition de loi est votée, venir chez vous, vous apporter de la nourriture, des médicaments, et aussi vous pourrez avoir une compensation financière. C'est-à-dire, si vous êtes salarié, vous pouvez avoir des indemnités journalières comme un salarié. Si vous avez une autre activité, vous pouvez avoir une compensation financière. Donc ça veut dire qu'on manie à la fois la sanction, le bâton, mais en même temps, on vous accompagne parce que ça a été vraiment le point faible de cette période.
Et alors, politiquement, en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce qu'en fait, pour pouvoir s'isoler, en fait, il faut avoir les moyens de s'isoler. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens qui vivent à plusieurs sous le même toit dans assez peu de pièces, eh bien c'est extrêmement compliqué de pouvoir monopoliser une salle, une pièce pour s'isoler. Et donc le gouvernement, ils sont aussi conscients que la question de la verbalisation, ça pourrait aussi être perçu comme la double peine pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'isoler. Donc c'est une sorte de double sanction. Et il y a un deuxième sujet aussi, c'est les capacités du gouvernement à contrôler cet isolement. Et j'ai pu récupérer les chiffres de la cellule interministérielle de crise. Vous savez, la cellule de crise qui gère toutes les crises, et donc là, en l'espèce, la crise sanitaire. Et en date du 17 novembre, il y avait 5759 personnes qui étaient isolées en France. Donc c'est quand même un chiffre extrêmement faible. Et ce chiffre a même baissé, puisqu'au 23 novembre, d'après le document que j'ai pu consulter, il y avait 2756 personnes qui étaient isolées. Donc c'est aussi pour ça que le président a expliqué que c'est à la fois sensible, parce que ça touche les questions démocratiques.
Et de liberté,
en fait,
oui.
Ça touche la question de la liberté individuelle, la liberté de circuler. Ça touche des questions sociales, les capacités à s'isoler, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais aussi, ça touche du doigt les questions des capacités à faire cet isolement. Est-ce que ça va être fait est-ce qu'il y aura des contrôles par les polices? Est-ce que ça va être géré, donc a priori, c'est département par département? Mais vous savez, il y a aussi des alternatives. Est-ce qu'on isole des gens à l'extérieur de chez eux et dans quelles conditions? Est-ce que du coup, on les isole à domicile? Il y a énormément de débats qui s'ouvrent en fait, à partir de ce moment-là.
Depuis ce reconfinement, sur la stratégie du bâton, on ne va pas se mentir, ça fonctionne plutôt moins bien parce que les policiers eux-mêmes disent qu'il y a tellement d'exceptions avec les bombes sorties, que c'est compliqué de contrôler, et puis il y a la menace terroriste, etc. On a bien vu qu'il y avait peu de barrages, il y avait peu de contrôles, et que d'ailleurs, saluons la responsabilité des Français qui ont respecté globalement.
C'est un drôle de paradoxe, parce que 60% des Français disent ne pas respecter le confinement, 60%, et pourtant les chiffres ont quand même...
Faire des petites entorses.
Voilà, j'allais y venir.
C'est-à-dire sur mesure.
Je crois que c'est 30 ou 20% qui disent faire des fausses attestations. Alors c'est vrai, plutôt de sortir une heure pour aller se balader, on sort deux heures. Mais c'est vrai que finalement, ces petites transgressions n'ont pas eu d'effet finalement catastrophique, puisqu'on a vu que la chute est grâce à la fermeture des bars et des restaurants, essentiellement.
Francis Palombi.
J'ai aussi écouté, il l'avait dit au tout début de ses interventions, presque au début du confinement et du déconfinement, quoi qu'il en coûte. Donc la volonté du... C'est vrai que je vous parle un peu plus de l'aspect économique.
Vous avez raison,
du fait
Francis Palombi.
De ma condition et de ma responsabilité. Ça, c'est quand même une phrase que j'ai particulièrement écoutée. Et par rapport à l'emploi, par rapport à la détresse de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le ferment de la société, c'est quand même... La jeunesse, c'est très important.
Oui.
Un jeune égale une solution. Ce sont des mots, peut-être... Mais je pense qu'il y a une volonté du gouvernement de vraiment faire évoluer et soutenir la situation économique. Et il y a aussi autre chose. C'est vrai que ce n'est pas très appliqué en France, l'application anti-Covid. Mais je dis
à nos
commerçants...
Ça marche plutôt bien, la nouvelle version. Ça a été téléchargé des millions de fois.
Voilà,
donc ça marche
plutôt
mieux.
Mais il faut encore continuer. Et nous, les commerçants, quand nos consommateurs vont enfin revenir à partir du 28 dans
nos
magasins...
C'est que dans 4 jours, M. Palombi.
Oui, 4 jours, mais c'est long et c'est quand même rassurant. Eh bien, là aussi, il faut qu'on soit coopérateur de ces mesures, qu'on incite des consommateurs un peu dissipés à être plus sérieux.
Mais c'est un point très important, puisque ça n'a pas été précisé ce soir. Il a juste dit que le protocole sanitaire va être renforcé. Le protocole sanitaire va être drastique. C'est un client pour 8 mètres carrés. Et ça, il va falloir que les commerçants le vérifient.
Ça, c'est plus dur.
C'est-à-dire que, par exemple, dans la grande distribution, un client pour 8 mètres carrés à 23 décembre, alors d'ici là, ce sera peut-être un peu levé, mais c'est comique à appliquer. Il y a énormément d'endroits, là, les magasins de jouets...
Mais c'était le cas pendant le premier confinement. Les supermarchés filtraient déjà les gens pour pas qu'il y ait trop de monde dans la surface.
En ce moment, c'est moyennement respecté quand même.
Très moyennement.
Donc là, ça va être... Il va falloir véritablement renforcer, c'est-à-dire que logiquement, alors on a le droit de toucher par exemple les produits en rayon, mais on doit logiquement se laver les mains à chaque fois, logiquement selon le protocole, on ne peut pas être trop nombreux à la caisse. Ça va être une responsabilité de chacun pour réussir à faire en sorte que cette période de Noël se passe bien. Élément en plus très important, ne pas oublier, le 4 décembre, plus gros jours de consommation de l'année. Et le week-end du 4, 5, 6, on va vivre une période historique en France, puisque c'est déjà traditionnellement le 5, la date où généralement on a le plus de cartes bancaires en France. Après, là, vous aurez le week-end du Black Friday.
Ouais.
Ça va être le moment de consommation le plus fort, mais à un niveau qu'on ne peut pas imaginer.
On verra, Emmanuel, si les gens vont physiquement dans les magasins, parce qu'il y a aussi, la crainte d'attraper la maladie. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont déjà précommandé
leurs
achats de Noël sur le e-commerce.
Toute petite question, est-ce qu'il n'y a pas des commerces, justement, compte tenu de ces contraintes, qui n'ont pas intérêt à rester fermés et à toucher les aides du gouvernement? Ma question est réellement naïve.
Non, je pense qu'il y a peu de commerces. Il faut voir à quel point Noël.
Faites attention, il y a M. Palombi, Louis Dranel, qui va vous trouver.
Monsieur Palombi va peut-être.
Non, mais dans certains commerces, on voit bien que.
Monsieur Palombi va peut-être me contredire, mais pour de très nombreux commerces.
On
pense très nombreux commerces.
Vous avez raison, monsieur, c'est bien de s'exprimer, mais moi, je vous dis non.
Bien. Je voudrais qu'on parle des vaccins. Pour terminer, je voudrais qu'on parle des vaccins. Le président de la République s'est exprimé sur la stratégie de vaccination. On écoute Emmanuel Macron.
Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre. Début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission, en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en capacité d'en produire en maximum en Europe, et le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
Voilà, pas de vaccination obligatoire, Ève Roger, c'est un... Il n'y avait pas trop de suspense, parce qu'il y avait peu de chances que le gouvernement rende la vaccination obligatoire. En tout cas, l'information, c'est qu'à partir de janvier, nous dit le président, même de décembre, si les autorités compétentes, le gendarme du médicament, donne son feu vert pour la commercialisation, il y aura les premières campagnes de vaccination à destination des plus fragiles.
C'est vrai. Alors c'est ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris là dans cette intervention, c'est qu'il y aura une pré-campagne presque fin décembre avec les hôpitaux, les maisons de retraite et les médecins de ville pour vacciner effectivement en priorité. Les personnes fragiles,
c'est
le personnel
dingue,
soignant.
Ça, hein,
fin décembre,
vaccins,
c'est ça.
Ça veut dire que dans un mois, il y a les premiers vaccins sur le sol français.
C'est ça. Et en plus, avec déjà un déploiement important, je crois qu'il a même dit le mot massif. Hein, l'idée, c'était vraiment
avec
de...
Avec une coordination européenne.
C'est ça. Mais là, l'Europe l'achète ensemble, ça c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit ça alors quand même... On ne sait presque pas encore lequel on va utiliser en premier. Donc
on sait qu'on les a tous achetés.
Voilà,
hein. Moderna, il y a
ça,
un accord qui a été passé avec l'Union européenne.
Voilà.
C'est le vaccin de la biotech dirigée par un Français. Et puis Pfizer et BioNTech, pareil, il y a un accord qui a été passé avec l'Union européenne.
Et encore une fois, il y a aussi une question d'acceptation sociale. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le président n'a pas voulu parler de caractère obligatoire. Parce que dans les enquêtes d'opinion qu'on voit sur la question du vaccin, on voit bien que c'est un sujet qui est extrêmement clivant. En fait, il y a 50% des Français globalement veulent se vacciner, 50% pas du tout. Et en fait, ceux qui veulent se vacciner sont très 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 désireux de se vacciner, et ceux qui ne veulent pas se vacciner vraiment ont aussi un avis extrêmement tranché, ne veulent pas du tout se vacciner.
Mais vous savez qu'en 1902, lors des premières campagnes de vaccination, c'était déjà le cas. Il y avait déjà des anti-vaccins en France. Vous voyez que ça n'est pas nouveau.
Et ça va être un point indispensable pour la relance de l'économie, même si c'est anecdotique. La compagnie australienne aérienne Qantas a par exemple dit ce matin qu'il faudrait être vacciné sur ses vols internationaux. On va voir si d'autres prennent ce genre de décision, mais tout le monde
est
conscient.
C'est les mêmes qui vont en Suisse au ski ou pas ceux qui prennent la compagnie Qantas?
Vous savez qu'on ne peut pas encore faire un Genève, l'Australie. Je crois qu'il n'y a que depuis l'Autriche qu'on arrive à faire un vol pour l'Australie. Mais là, plus sérieusement, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça va être indispensable pour la relance de l'économie. Et sûrement, si ça conditionne la relance de l'économie, si ça conditionne le fait que notre vie soit plus simple, peut-être que là, les vaccinations vont être un peu plus acceptées.
Bien, merci à tous les quatre. Merci Francis Palombi d'avoir été ce soir notre invité et d'avoir commenté avec nous les annonces.
Bonne animation.
Merci, cher monsieur, merci.
C'est très agréable.
20h49, vous restez avec nous. La soirée continue sur Europe 1 en direct. Grande soirée foot jusqu'à 23h30 avec la Ligue des Champions et un match capital pour le PSG. Coup d'envoi d'ici quelques minutes à 21h. Match à suivre en direct et en intégralité autour de Lionel Rousseau avec Cyril de la Morinerie et Julien Froment. Aux commentaires. À demain. Merci de votre fidélité.